Bonjour à tous, je suis Ophélie Meunier, je présente le journal inattendu tous les samedis midi sur RTL. Bienvenue dans l'interview inattendue, le podcast. Dans chaque épisode, je vous propose une rencontre avec une personnalité, acteur, penseur, influenceur, écrivain ou musicien, quel que soit son talent, son univers. Dans chaque entretien, mon invité se raconte de manière inattendue. Vous allez découvrir son regard sur notre société, ses passions, ou encore ses goûts en musique, en cinéma ou en littérature. Pour cette interview inattendue, je suis avec un écrivain récompensé en 2020 par le plus grand prix littéraire français. Cher invité, qui êtes-vous? Vous avez une petite minute pour vous présenter.
Je m'appelle Hervé Le Tellier. Je suis surpris d'avoir reçu le prix Goncourt. Je le reçois dans une circonstance qui est très bizarre, qui est l'année 2020, qui aurait été une année totalement anormale de tout point de vue. Et mon livre s'appelle « L'anomalie », ce qui est parfaitement en adéquation avec le monde tel qu'il est. Je suis membre d'un groupe qui s'appelle Loulipo, qui bénéficie un peu miraculeusement aussi d'une lumière nouvelle. Je suis très heureux que le groupe bénéficie de cet éclairage. C'est un groupe de travail qui s'intéresse à la contrainte et qui s'intéresse à l'écriture sous contrainte. Et j'en parlerai peut-être au cours de l'émission.
Je confirme, on va parler de ça. Alors avant, on parle de cette actualité incroyable, ce moment un peu suspendu que vous avez vécu au mois de novembre, Hervé Le Tellier, auteur de L'Anomalie chez Gallimard, prix Goncourt 2020. Avant de parler de l'anomalie, parlons de l'année 2020. Quel regard vous portez sur cette année si particulière en dehors de ce moment un peu incroyable que vous avez vécu avec le Goncourt, globalement?
Globalement, c'est une année très bizarre pour moi parce que je pense que je suis comme tous les Français. J'ai vécu avec quasiment 5 mois de confinement, ce qui fait qu'il y a un sentiment de déréalité, c'est-à-dire d'un rapport au monde qui est un peu altéré par le masque, l'absence de contact physique, le respect des distances, toute une série de choses qui fait qu'on a basculé dans un univers qui n'est pas celui auquel on a été habitué. Je vois des enfants qui portent des masques et qui ont 2 ans et qui disent à leur père, lorsqu'il baisse son masque, de le remettre. Donc, il y a une sorte de transformation du monde qui, j'espère, ne va pas durer très longtemps. On a passé un été presque normal et puis on retombe dans une sorte de situation que je trouve, pour ma part, un peu anxiogène à force. Et je crains que, malheureusement, tout le monde soit un peu comme moi et que toute une série de respects, des gestes sans doute nécessaires, soit de plus en plus difficile à respecter, c'est-à-dire enfin, à accepter, parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de lassitude générale de la population et que je ne vois pas comment on pourrait accepter, par exemple, un troisième confinement, ce qui semble une possibilité s'il y avait une troisième vague.
Oui, il faut l'envisager. Comment vous faites d'ailleurs pour mieux vivre, entre guillemets, hein, si je peux me permettre, les confinements? C'est quoi votre astuce pour que ce soit acceptable au quotidien?
Je pense que je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que je lis pas mal. Je me colle devant mon écran, je corresponds de manière beaucoup plus par mail, j'utilise des logiciels de téléconférence. C'est ce que fait par exemple Loulipo. On a une bizarrerie pour la remise du Goncourt que sans doute certains ont vu, qui est cette remise du Goncourt avec des jurés qui découvrent un petit peu l'utilisation de Zoom. C'est drôle. Moi-même d'ailleurs, j'étais...
C'était pas les seuls. Hein.
Non, tout le monde. Donc voilà, ce sont des bizarreries de relations sociales. Mais bon, ça reste des relations sociales. C'est pas non plus mortellement destructeur au niveau de rapport qu'on a au monde. Mais c'est une virtualisation, une écranisation du rapport social qui est étonnante, quoi.
Mais en tout cas, on nous souhaite que ce ne soit pas éternel, parce que vous faites partie de ceux, si je comprends bien, qui en ont un peu marre de cette situation.
On est loin d'être nombreux, non?
Oui, je crois. Enfin, en tout cas, je m'inclus. Publier un livre en pleine épidémie, L'Anomalie, est sorti fin août, hein, je le rappelle. Être récompensé en plein confinement, quelle saveur ça donne à cette récompense?
Le Goncourt est un prix qu'on obtient une fois dans sa vie. A priori, à part Romain Gary.
Peut-être qu'un prochain Émile Ajar, mais...
Peut-être, mais en l'occurrence, ce qui se passe lorsqu'on reçoit ce prix dans ces circonstances, c'est qu'on ne l'a jamais vécu, donc il n'y a pas une vraie surprise, ce n'est pas différent des autres années pour soi. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de comparer avec autre chose. Donc on le vit de manière un peu naturelle. Ce qui a été un peu bizarre, et je pense que là, ça concerne les 4 finalistes, c'est qu'on a tous attendu pendant presque 3 semaines à 4 semaines en plus. Ce qui est un peu stressant, parce que je pense que c'est un petit peu comme quand vous avez beaucoup couru pour un marathon et qu'on vous dit, en arrivant à la ligne d'arrivée, il y en a encore pour 10 kilomètres, et qu'on est encore à attendre. Donc ça a été une sorte de bizarrerie où on s'est tous lus, d'ailleurs, entre, je pense, les uns les autres, en se disant « ça sera lui, ça sera elle ». Voilà, c'était assez intéressant.
Dites-moi, vous avez beaucoup espéré que ce soit vous. Vous y croyez ?
Bon, ça se pose pas vraiment ces termes-là, je pense. Ça se passe...
On se projette quand même, on se dit « et si c'était moi ?»
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que je dirais ? Comment je réagirais ?
Oui, on se demande évidemment si c'était moi. Et on se le demande d'ailleurs dès qu'on est dans la première liste. Mmh. Et puis après, il y a une sorte de resserrement de l'entonnoir. Le nombre de finalistes ne cesse de se réduire. Et à la fin, on se dit « bah oui, pourquoi pas moi ?» Bon, non, il y a ce qu'on sait, mais ça c'est d'expérience, c'est que ça change la vie d'un auteur. C'est-à-dire que d'un seul coup... Pour moi, qui ai 63 ans, ça signifie que j'ai derrière moi une trentaine de livres, que j'ai 30 ans d'écriture derrière moi, et que ces livres-là vont pouvoir avoir une nouvelle vie. Mmh. Évidemment, ça change les choses. Je pense aussi que c'est pas si mal de l'avoir à cet âge-là, dans le sens où on n'est pas susceptible d'être, dévasté littérairement par un Goncourt. On n'a pas l'angoisse de savoir quel va être le livre d'après. Je suis déjà sur un autre travail. Donc, j'ai pas très peur du danger qui peut exister pour un très jeune écrivain de recevoir un prix aussi honorifique.
Vous avez dit « Je n'ai jamais eu la sensation que le plus beau jour de ma vie soit passé ». Vous avez dit ça avant de recevoir le Goncourt. Toujours pas arrivé ce plus beau jour alors ?
Ben, j'espère que non. J'ai repris cette phrase parce que je citais en fait un auteur que j'aime énormément, qui est Édouard Levé, et qui, dans un de ses livres qui s'appelle Autoportrait, qui est publié chez POL, histoire que tout le monde aille le chercher demain, c'est un très très beau livre d'Édouard Levé, qui est décédé depuis, qui est mort, je crois, en 2008. Édouard, donc, termine son livre par le plus beau jour de ma vie est peut-être passé. Et je trouve que c'est une des phrases les plus tragiques qu'on puisse écrire dans un livre, c'est l'impression que peut-être, effectivement, il ne se passera rien de mieux que tel jour. Et je ne suis pas, moi, du tout dans cette démarche-là. Et je ne pense pas, même si c'était un très beau jour, ce jour du Goncourt, je ne peux pas être dans une perspective humaine dans laquelle c'est le plus beau jour de ma vie et désormais, il n'y aura pas de plus beau jour de ma vie. Ça m'est impossible de penser ça. Alors, je ne sais pas quel sera le prochain plus beau jour de ma vie, mais... A priori, on espère toujours que c'est demain.
Quoi. C'est plutôt joli de se dire qu'il y en aura plusieurs, en fait.
Il faut pouvoir être dans cet espoir-là. Je pense qu'à partir du moment où on commence à vieillir, je ne sais plus qui disait que devenir vieux, c'est quand on commence à être jaloux des gens plus vieux que vous. Et je trouve cette phrase absolument formidable, ouais. Parce qu'au fond, elle dit que quelque chose est fini et qu'on n'espère plus qu'une chose, c'est être encore plus vieux. Alors qu'au fond, quand on a un certain âge, la perspective, c'est d'être encore un peu jaloux de ceux qui sont plus jeunes.
Plus jeunes, normalement.
C'est mieux.
Oui.
Être jaloux des plus vieux, ça fait quand même un peu peur, quoi.
Dans l'anomalie, en 3 mois, tout change dans la vie de vos personnages. Pour une raison un peu complexe, liée à un voyage en avion, les personnages de l'anomalie se retrouvent dédoublés. Les uns sont restés au mois de mars 2021, les autres ont traversé un printemps souvent agité pour arriver en juin 2021. Et là, vous posez un certain nombre de questions existentielles. Que faire de la petite avance que ceux de juin ont sur ceux de mars ? En tireront-ils les leçons pour mieux se comporter, faire des choix plus judicieux ? Pour avoir eu cette idée de roman, est-ce que vous êtes deux dans votre tête, Hervé Le Tellier ?
Oh, je suis beaucoup plus que ça. Je sais plus. La schizophrénie et moi, ça fait 3, comme je ne sais plus qui. Non, quand on réfléchit à un roman de cette nature, on essaye d'être deux dans le sens où on essaye d'être son propre lecteur. Et ça fait déjà 2 personnes, ça fait l'écrivain et le lecteur. Mmh. Et il faut effectivement, je pense que c'est une nécessité pour tous les auteurs de pouvoir se dissocier, de regarder son propre texte avec un peu de distance, avec un peu de cruauté aussi, et puis avec un désespoir qui est de dire « Ah, c'est pas ce que j'aurais voulu dire, mais c'est ce que j'ai dit quand même, et on va reprendre la phrase, on va placer une virgule. » Donc on est forcément deux. L'un qui est critique et l'autre qui écrit. Alors ce rapport, en plus, il est doublé sur un travail comme l'Anomalie d'un architecte, parce que c'est un livre très construit, très architecturé. Mmh. Et j'ai essayé de faire que l'architecture ne soit pas un frein à la lecture, jamais. Donc ça veut dire que il faut en permanence concevoir des personnages qui sont tout de suite immédiatement appréhensibles. Il faut concevoir des structures de récits qui donnent envie de continuer pour savoir ce qui va se passer dans les chapitres suivants.
Oui, et c'est le cas à la fin. En tout cas, au début, à la fin de chaque présentation de personnage,
il y a une relance.
C'est suffisamment bien terminé pour avoir très envie de continuer et de voir en fait la suite de ce personnage, alors que avant cela, il va y avoir toute une galerie d'autres personnages qui vont être présentés. Donc c'est quand même plutôt malin pour nous accrocher. Hein.
Oui, il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est que quand on a beaucoup de personnages, il faut qu'on arrive sur un chapitre suivant avec un autre personnage sans qu'il y ait une trop grande déception de la perte du premier. Donc il faut que le deuxième soit aussi fort que celui qu'on vient de quitter. Mmh. Et c'est un travail permanent sur la première partie du livre, qui est de présenter tous ces personnages et de faire accepter au lecteur... il a perdu un personnage, mais il y en a un deuxième qui arrive, et puis il faut l'entraîner jusqu'au moment où on est à la limite de la saturation, parce qu'à un moment donné, on se dit non, je ne vais pas mettre 50 personnages, je vais m'arrêter à 10, à 8, à 7, voilà. Et c'est un jeu, en fait, avec soi-même aussi, avec ce qu'on est capable soi-même d'endurer.
Il s'est beaucoup dit ces derniers jours que votre livre ferait un parfait film ou une parfaite série. Vous y pensez quand vous l'écrivez ?
Non, mais...
Un petit peu quand même.
Disons qu'il y a des... Il y a des éléments cinématographiques. Je pense que lorsqu'on écrit un livre aujourd'hui, on n'est pas coupé du monde réel, qui est constitué également d'images. Et moi, je commençais souvent des chapitres avec des idées qui étaient quasiment des idées de scène. Mais au fond, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit spécifique au XXe siècle et que ce soit spécifique en fait à un monde qui est un monde de cinéma et un monde dans lequel il y a des séries, ce qui est une forme d'ailleurs artistique qui a pris la place du cinéma de manière très forte depuis une vingtaine d'années avec des œuvres qui méritent véritablement le nom d'œuvre. Donc je pense que c'est quelque chose de très ancien qui est que lorsqu'un auteur écrit une scène, il a les images de la scène et ensuite il essaye de les transposer. Je me souviens d'une lecture très ancienne, vraiment, qui est une lecture des Misérables. Donc un texte de Victor Hugo qu'on ne peut pas trouver plus classique que Les Misérables. Mmh. Et la scène qui est une scène où le conventionnel rencontre l'abbé Myriel. Et donc une scène dans laquelle un abbé qui est connu pour être celui qui a donné les chandeliers à Jean Valjean et qui est donc un homme bon, rencontre un autre homme bon qui lui est un révolutionnaire athée, qui a fait la révolution et qui est donc un conventionnel qui va mourir. Et on a donc ces deux personnages qui sont deux personnes, l'un bon par Dieu et l'autre bon par l'amour de l'homme, qui vont discuter. Et je me souviens que j'ai lu ça comme une scène de cinéma dans laquelle il y avait un chant contre chant, chant contre chant. Mmh. Victor Hugo ne connaît pas le cinéma et pourtant ce qu'il fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une scène qui est cinématographique. Et je pense que c'est instinctif chez un auteur. Et aujourd'hui, on peut regarder n'importe quel début de roman, on voit tout de suite ce qui se passe. Et c'est ce qui fait que le monde du cinéma et le monde de l'image, disons, et le monde de l'écrit ont des passerelles qui sont très puissantes.
Vous seriez fier de voir votre roman adapté ?
Je serais curieux aussi. Parce que la vraie question est c'est celle de la dépossession, c'est-à-dire d'avoir.
Vous êtes prêt à le faire, en tout cas.
Ah ben, de toute façon, je.
À céder les droits pour qu'il soit adapté. C'est déjà fait, peut-être.
C'est déjà fait, mais surtout, ce n'est pas la première fois qu'un de mes textes est transformé. Mmh. J'ai beaucoup de textes qui sont devenus des pièces de théâtre.
Celui-ci a une saveur un peu particulière, quand même.
Et je le vois difficilement au théâtre.
Oui.
Voilà, pour des raisons qui tiennent aux effets spéciaux.
Oui, ce serait une mise en scène très compliquée, mais tout est possible au théâtre.
Mais lorsqu'on passe au théâtre, par exemple, il y a une dépossession nécessaire, c'est-à-dire que la personne qui incarne tel ou tel personnage n'est pas celui que vous aviez en tête, forcément. Il est incarné par quelqu'un d'autre. La mise en scène qui est faite déplace le texte. Parfois, elle déforme un petit peu, mais surtout le déplace. Et donc, il faut accepter cette nécessité qui est que les metteurs en scène sont des créateurs, au même titre que la personne qui a écrit un texte. Donc, il y a une sorte d'adaptation. Et cette adaptation, c'est parfois une petite destruction, et c'est tant mieux.
On parlait séries, vous en regardez ? Vous en avez regardé pendant le confinement ? Vous faites partie de ceux qui ont binge-watché les séries ?
Alors, oui, moi j'aime. Enfin, c'est une forme que j'aime bien, d'abord parce qu'elle installe du temps long. Donc, il y a vraiment des séries qui sont extraordinaires. Moi, j'avais commencé par voir une série qui m'avait été recommandée par Jacques Roubaud, poète membre de l'Oulipo, qui s'appelle The Wire, en français, sur écoute. Mm-hmm. Et je dois dire que sur écoute, pour moi, c'est du Shakespeare. C'est-à-dire qu'il y a une. Les personnages sont incroyablement campés. Il y a une Après, je connais l'histoire de The Wire, qui est une histoire absolument formidable en termes simplement de création, puisque c'est d'abord un reportage, ça devient ensuite c'est d'abord un reportage écrit, ça devient un documentaire filmé, ensuite ça devient un projet de film, puis c'est une série. Donc c'est quand même un devenir incroyable pour quelque chose qui, a priori, est plutôt du document. Ensuite, après The Wire, j'ai regardé une autre série que je trouvais très, très intéressante, qui était une série qui s'appelait Life on Mars.
Ah oui.
Et j'avais beaucoup aimé le travail, parce que c'est un travail fait avec des bouts de ficelle, et qui, d'abord j'adore la chanson de Bowie, je la trouve absolument incroyable, et puis cette idée de prendre un sujet extrêmement simple, qui est quelqu'un qui renaît en 73, à la suite d'une tombée dans le coma, ça demandait très peu finalement d'investissement financier pour créer une série très très originale. Et puis on peut multiplier. D'ailleurs, ce que j'ai vu, c'est une toute petite série anglaise. J'aime beaucoup les séries anglaises, qui s'appelle Inside Number 9, qui a été diffusée par Arte et qui, elle, a la caractéristique d'être des petits épisodes tous indépendants les uns des autres, qui à chaque fois ont une idée à partir du numéro 9. Voilà, et ça, c'est aussi une forme qui n'est pas celle tout à fait de la série, parce qu'il n'y a pas ce système
de feuilletonnage.
De suite, ouais. Mais en revanche, il y a un rendez-vous où on attend quelque chose qui est inattendu à chaque fois, très original, très, très travaillé au niveau du dialogue. Enfin, c'est assez formidable.
Et côté musique, qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous inspire?
J'ai longtemps écouté de la musique baroque, vraiment, beaucoup. De Bach, joué en baroque, à Monteverdi. Enfin, c'est une passion de mon adolescence qui a duré un certain temps. Et puis, en fait, j'écoute assez peu de musique. Le réel, c'est que j'écoute peu de musique parce que je travaille pas mal et que je ne peux pas travailler en musique.
Ah oui, non, vous ne pouvez pas écrire en même temps que vous écoutez la musique,
non,
ça vous dérange?
C'est impossible, c'est absolument impossible. C'est vraiment très perturbant.
Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent en écoutant la musique.
Je sais, il y a plein d'auteurs qui disent qu'ils écoutent de la musique en travaillant. Je ne sais pas comment ils font, je suis très admiratif et très curieux aussi, parce que moi, ça m'interdit ça transforme le phrasé. Donc, ça intervient de manière... c'est une bande-son et j'ai du mal avec une bande-son à composer quelque chose moi-même.
En tout cas, aujourd'hui, vous avez voulu nous faire découvrir des morceaux de musique.
J'ai choisi que des reprises.
Assez étonnant, inattendu, c'est le mot. Alors, on commence avec Sigrid?
Oui, si vous voulez.
Everybody Knows, reprise de Leonard Cohen.
Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich.
Comment vous avez découvert cette musique, cette reprise?
C'est la musique d'un film qui est une sorte de... Je crois que c'est un film de fantasy, enfin voilà, de super-héros.
Oui.
Et je crois que mon fils le regardait. Et j'ai entendu ça, la pièce d'à côté. Et je suis allé écouter parce que je trouvais que cette reprise était hallucinante. Et j'ai regardé qui était Sigrid. J'ai vu que c'était une jeune Suédoise de 20 ans, qu'elle avait une voix de dingue, avec quelque chose qu'il n'y a pas chez le Cohen. Enfin,
qui pas est facile de reprendre Leonard Cohen.
Mais non, c'est ça qui est formidable. C'est qu'elle s'attaque à un truc qui est une sorte de totem de la musique et elle y va carrément. Et elle y va sans aucune... avec un total respect et en même temps en donnant toute sa puissance, tout son charme. Et c'est très étonnant ce qu'elle arrive à faire.
Alors, autre reprise très étonnante aussi, Casey Abrams, Umbrella de Rihanna au départ.
Oui.
Ça n'a plus rien à voir.
Non.
Vous souriez.
Ah oui, c'est formidable. Ouais, c'est une chanson absolument démente parce que il prend une musique qui effectivement où il y a une base.
Vous aimez la version originale?
Moyennement. Enfin, j'aime tellement plus celle-là qu'au fond, je me dis que c'est ça la version originale et que Rihanna a fait une reprise. Et ça m'arrive souvent dans ce que fait d'ailleurs la bande autour de Casey Abrams et de Scott Bradley qui s'appelle Postmodern Jukebox. Que je conseille à chacun de regarder parce que je crois qu'ils sont sur YouTube, ils ont une chaîne. Et ce que fait Scott Bradley et sa bande, qui est le pianiste, hein, c'est de reprendre toute une série de standards des années, en gros, de 80 à aujourd'hui, et de les précipiter dans un monde qui est celui des années 50, avec un amour du jazz, et puis aussi, ce sont tous des virtuoses, quoi. Il n'y a pas de... Casey Abrams, c'est un des plus grands chanteurs américains, qui n'est pas très connu, je pense, mais il a une voix, vous avez vu, c'est extraordinaire.
Extraordinaire.
Voilà. Et derrière, il y a deux nanas qui font des claquettes.
Et la bande instrumentale aussi. Et les claquettes qu'on entend.
C'est extraordinaire. Donc, c'est un moment qui est assez joyeux parce qu'il transforme un texte qui est un petit peu, chez Rihanna, un peu mélancolique. Enfin, il y a un tout petit peu de mélancolie. Mm. Là, il en fait une sorte de folie, d'une gaieté merveilleuse, quoi.
Et alors, encore toute autre chose. Tata Yo-Yo, de notre grande Annie Cordy, récemment décédée, repris par Mekavolik.
Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom bien plus rigolo. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous son grand chapeau ?
Là encore, tellement loin de la version originale.
Ouais. Oui, alors ce qui est formidable, c'est que Tata Yo-Yo... Alors, je ne connais pas bien Tata Yo-Yo par Annie Cordy. Et puis, pendant le confinement...
Je ne vous la chanterai pas.
Non, mais pendant le confinement, cet homme qu'on entend a fait une version qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux. Et je trouvais que d'un seul coup, ce que racontait Tata Yo-Yo, qui est l'histoire d'une dame qui chante à Rio, ça devient une autre histoire avec lui. Ça devient une histoire beaucoup plus touchante. Un truc où... un homme qu'on devine un peu homosexuel se fait moquer, on l'appelle Tata Yo-Yo, ça peut être une lecture possible, quoi. Et d'un seul coup, ça prend une dimension de dingue. Et là aussi, on a une sensibilité dans le travail de la voix qui est touchante. Enfin, là, on a écouté juste un petit extrait, je ne sais pas si les auditeurs ont l'occasion d'écouter plus que ça.
Je pense qu'ils auront la curiosité, en tout cas, d'aller taper dans YouTube et rechercher Mekavolik.
Mais c'est formidable.
Tata Yo-Yo.
C'est formidable. Et puis, il est tout seul. C'est-à-dire qu'il est seul chez lui, dans sa cuisine ou presque, et il obtient ça avec un travail de remix, un travail d'écho qui fait un tout petit mouvement qui fait qu'il s'imprime quelque chose dans l'esprit. Bon, parce que, c'est plutôt un clip. Et c'est très, très, très réussi. Il a fait d'autres choses, d'ailleurs, qui sont très bien à regarder aussi.
Les conseils littéraires d'un écrivain sont toujours les bienvenus. Alors, en dehors des livres signés Hervé Le Tellier, qu'est-ce que vous me conseilleriez de lire ? Un ou deux livres ?
Ben déjà, je vais vous conseiller de lire un livre extrêmement volumineux qui va vous prendre du temps, qui est en deux tomes. C'est un livre qui est sorti, il y a 2 ou 3 ans. Et pour ma part, je trouve que c'est un des plus grands livres du... Ben, c'est un livre énorme, en dehors de son volume. C'est Grégoire Bouillet, c'est le dossier M. C'est 2 tomes, 1000 pages chacun. Le premier tome, l'histoire est la suivante. Il aime une fille, il ne sait pas très bien si elle l'aime, il veut coucher avec elle, et ça ne marche pas. Premier volume, 1000 pages. C'est absolument dément, c'est le roi de la digression, de l'analyse des rapports sociaux, ça commence par et des rapports amoureux. Ça commence par Picasso, avec une référence à un drame de Picasso dans sa jeunesse. Et on voit le rapport au fur et à mesure avec ce qui se développe dans le livre. Grégoire Bouillet est un des plus grands écrivains, à mon avis, français vivant.
Et vous venez de devenir un des plus grands spécialistes du teasing en littérature.
Ah, mais c'est un livre formidable. Les livres de Grégoire Bouillet sont tous de très beaux livres. Il y en a un qui est son premier livre, qui s'appelle « Rapport sur moi », qui est un tout petit livre. Mais le dossier M, c'est une œuvre monumentale qui est merveilleuse.
Vous parlez d'amour. Vous dites que le seul but de la vie, c'est la plénitude amoureuse. Ça veut dire quoi, la plénitude amoureuse, pour Hervé Le Tellier ?
Ben, en fait, je pense qu'il y a dans la préface de... Je crois que c'est en préface, je ne sais plus si c'est en préface. En tout cas, dans un texte de Stendhal, Henri Bayle, Ville-Henri Brûlard, il dit « L'amour a été la principale affaire de ma vie et peut-être la seule ». Et moi, je crois que c'est quand même assez vrai. C'est-à-dire que dans la vie, l'intégralité de ce que nous faisons vise à être rempli au niveau amoureux. C'est-à-dire que le pouvoir, tout ça, on s'en fout. L'argent, ce n'est pas important. Le truc qui compte, c'est ça, quoi.
Vous
c'est
y
ça
êtes
que
arrivé
je crois. Non.
Vous espérez y arriver ?
Ben, quand je dis non, c'est une réponse vraiment à l'emporte-pièce. Mais je pense que... Je pense que c'est le genre de chose, au moment où on croit l'atteindre, on la perd. C'est-à-dire, c'est le danger de la chose. C'est-à-dire, il faut être
c'est
tout le temps...
C'est un peu dur, ça.
Non, enfin non, c'est... C'est exactement comme l'écriture. Au moment où on croit qu'on est arrivé à une perfection d'écriture, c'est qu'on s'est trompé, parce qu'écrire bien, c'est écrire mal. Donc, il y a toujours cette chose dans le rapport à l'autre où il y a des moments d'intense plénitude, effectivement amoureuse, et puis moi, j'ai toujours l'impression qu'il faut qu'il y ait du danger dans le rapport amoureux, qu'il y ait une sorte de peur de la perte, et que si la peur de la perte n'est pas là, il y a quelque chose qui manque. Alors, c'est un rapport sans doute névrotique à la chose, hein, mais moi, j'ai toujours cette sensation-là, qu'il faut qu'il y ait une sorte de crainte, de pincement.
Hervé Le Tellier, vous êtes aussi un homme de contrainte. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Membre de l'Oulipo, son président depuis 2019. Expliquez-nous.
L'Oulipo, c'est un groupe de travail. C'est un groupe de travail de gens qui s'intéressent à la littérature sous contrainte, c'est-à-dire à de la littérature qui est composée à partir de quelque chose qu'on s'impose.
C'est déjà quand même très compliqué d'écrire un roman. Alors en plus, vous vous mettez une contrainte.
Oui, mais Georges Perec disait que ça le ralentissait et que c'était pour ça qu'il écrivait.
Et du coup, ça lui donnait plus de plaisir ?
Je pense que ça lui donnait plus d'énergie dans l'écriture et que ça le contraignait à passer par des chemins par lesquels il ne serait jamais passé.
Alors, donnez-nous quelques exemples pour qu'on comprenne bien. Ça veut dire quoi comme contrainte ?
Alors, il y a des
utiliser un mot ?
Il y a des contraintes qui sont la contrainte la plus connue utilisée par Georges Perec et qui est souvent utilisée pour montrer ce que c'est que l'Oulipo, mais qui est caricaturale parce que ce n'est vraiment pas l'unique travail de l'Oulipo. C'est l'écriture d'un livre sans utiliser une seule fois la lettre E. Ça s'appelle la disparition.
La disparition.
Alors, évidemment, ça, c'est ce qu'on appelle un lipogramme. On se prive d'une lettre, on voit ce qui reste et on essaie de composer un livre avec ça.
Non, mais écrire un livre entier sans E, c'est...
Mais c'est une gageure extraordinaire. Ça fait néanmoins un livre extrêmement intéressant à lire. Mais moi, ce n'est pas du tout la chose dans laquelle je me lance personnellement. Moi, je construis plutôt des livres sur la base de structures... et sur la base de damier ou sur la base de jeu, et je m'impose à suivre des parties ou des choses comme ça. Là, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, parce que j'ai plutôt fait une sorte de tresse. Mais les livres comme, par exemple, « Si par une nuit dévers un voyageur » de Italo Calvino sont construits à partir d'une logique, qui est une logique où on travaille sur le genre, où les différentes présentations de chapitres font naître des débuts de romans. Et Italo Calvino arrête ses débuts de romans pour... passer à un autre roman, il passe d'un roman intime à un roman policier, à un roman autobiographique. Et donc, à chaque fois, il passe d'un roman à un autre en abandonnant le lecteur. Donc, c'est un jeu, si vous voulez, avec les genres. Moi, je suis plutôt dans cet univers-là où je travaille sur ce qu'on peut appeler de la structure.
Voilà. Donc, pour l'anomalie, il y avait aussi au départ une contrainte.
Il y a une contrainte que je ne peux pas considérer comme étant une contrainte forte. À l'Oulipo, on considère qu'il y a deux types d'Oulipo. L'Oulipo hard, ouais, et l'Oulipo light.
Ah.
Donc ça, c'est plutôt de l'Oulipo un peu light, parce que c'est vrai que les contraintes que je m'impose sont des contraintes qui sont bousculées par la nécessité que je voulais de faire lire ce livre d'un bout à l'autre, et donc de jamais arrêter le lecteur par une contrainte qui viendrait s'interposer. Donc parfois, j'ai cassé des chapitres en deux qui étaient en un seul, par exemple, pour des raisons purement narratives. Mais il y a des petites contraintes, oui. Il y a des contraintes de début de chapitre, mais moi, je gomme toutes les contraintes. Je considère que même si c'est un patchwork, il ne faut pas qu'on voit les fils.
Donc, vous voulez la donner ? Vous pouvez la donner, la contrainte du livre ou pas ?
Je peux en donner une, par exemple.
Vous êtes mystérieux.
Non, mais je peux donner un exemple, simplement. Si vous prenez le début d'un chapitre qui s'appelle... Portrait de Victor Meusel en revenant, qui est un chapitre qui est, je crois, celui de la troisième partie, et qu'on compare avec le début, le premier paragraphe de ce chapitre, et qu'on le compare avec le début de La promesse de l'aube de Romain Gary, on verra des rapports, on verra des correspondances. Voilà. Dans un des cas, ça se passe à Ypres, et dans le deuxième cas, ça se passe à Bixure, donc à des endroits très différents, mais dans un cas, c'est une falaise, dans un cas, c'est une plage, dans un cas, c'est un je crois que c'est un morse ou un phoque. Et chez moi, c'est une mouette. Donc, il y a des décalages comme ça qui font que certains chapitres sont construits sur des décalques d'autres romans qui m'ont intéressé, qui étaient dans ma bibliothèque. Et ça n'accélère pas la création, ça la ralentit, ça la déporte. Et moi, ça m'intéresse d'être déporté, d'être emmené ailleurs par rapport à mon propre premier jet, de ne pas être finalement dans une sorte de linéarité, de spontanéité, d'immédiateté qui me freine.
Et quand vous y arrivez, ça vous fait quoi ?
Quand j'arrive à...
Quand vous réussissez à surmonter cette contrainte ?
On arrive toujours...
C'est un sentiment de satisfaction qui est plus fort que juste le fait d'écrire un roman ou...
C'est un jeu. Moi,
c'est un jeu.
J'aime bien jouer. Je suis assez joueur. Et donc, quand j'ai pris un début de roman de Hamet ou un, ou un début de roman de Simenon et que je le décale et que je fais autre chose avec, je m'amuse et c'est que pour moi. Et ça me fait rire de savoir que j'ai piqué un bout du chien jaune pour faire tout à fait autre chose. Il n'y a que moi que ça concerne. Souvent, quand on décale, on va tellement loin que ça n'a absolument rien à voir avec le truc de départ. C'est un point d'appui et on prend de l'élan et souvent avec de l'élan, on va plus loin.
Alors si vous êtes joueur, il y a un petit jeu de fin dans cette interview inattendue. Je propose pour terminer à mon invité de laisser un message à une personne de son choix. Si vous avez une demande à faire passer ou si vous souhaitez parler à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, c'est le moment. Ce que vous voulez. Alors Hervé Le Tellier, à qui avez-vous choisi de laisser un message ?
J'aimerais laisser un message à Italo Calvino. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de croiser Italo. Je l'ai vu de loin dans un séminaire. Je pense que c'était en 83. Il est mort en 85. Et j'aurais envie de lui demander quelles sont les dernières leçons américaines qu'il n'a pas eu le temps d'écrire pour ce livre merveilleux qui s'appelle « Leçons américaines ».
Merci Hervé Le Tellier.
Merci à vous.
Merci d'avoir partagé avec nous votre quotidien, vos goûts, votre regard sur la société. L'Anomalie, Goncourt 2020, aux éditions Gallimard. Bravo.
Merci beaucoup.
Profitez bien. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était un épisode de notre podcast original, l'interview inattendue, à la réalisation Pascal Choisy et à la programmation Marie-Caroline Mandon. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur l'application RTL, sur l'application AudioNow et toutes vos plateformes de podcast favorites.